Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention, qu'est-ce qu'il y a? Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama.
Oui, j'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, votre émission de cinéma, 30 minutes avec des chroniques, 7 aujourd'hui, il y a des jours comme ça. Bonjour Manu.
Bonjour.
Alors toi, c'est un film copieux.
Oui, et très attendu, hein, puisque c'est le nouveau film de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon.
Un autre film qui pourrait être attendu, c'est The Pod Generation, c'est Marine qui va nous en parler, et puis on va revenir sur Expendables, qui est sorti déjà il y a un petit moment, mais voilà, il s'agissait d'en parler puisque c'est le quatrième épisode de cette saga. Et puis je vous parlerai alors de deux comédies, et puis de deux films politiques, et puis il y a une comédie qui est aussi un film politique, c'est Second Tour de Albert Dupontel, et je vous parlerai aussi de The Old Oak, le film de Ken Loach, et puis de 3 jours max de Tarek Boudali. Mais nous commençons avec un film qui lui aussi est attendu, le grand favori à l'élection présidentielle, un secret qui va être percé par une équipe de journalistes, c'est Second Tour d'Albert Dupontel.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui?
Cinérama.
Eh bien, oui, je crois que oui.
Je vous demande de faire un triomphe à notre futur président!
Ta gueule, ce connard, bouffe ta merde.
Pardon?
Je parlais à Gus.
Maintenant que vous n'êtes plus au foot, tâchez de garder son gage pour vous.
Hasard du calendrier, il y a quelques jours, j'ai pu converser un petit moment avec Costa Gavras, le réalisateur de Z et de l'aveu m'a sorti que tous les films étaient politiques, que c'était une question de dosage, hein, mais que chaque œuvre portait en elle-même un point de vue sur le monde. Cette étiquette du film politique, eh bien Albert Dupontel, qui sort Second Tour, la refuse de manière très étonnante. Hein. S'il reconnaît à Ken Loach, qu'il admire, hein, le statut de cinéaste politique, il se préfère amuseur. Selon lui, il ne cherche qu'à divertir. Cependant, dans Second Tour, il est question d'un candidat à la présidentielle qu'il interprète et qui cache on ne sait quel secret et qui est menacé par des gens qui l'ont un temps soutenu, au point qu'un attentat contre sa personne le remet sur le devant de la scène. Une femme journaliste qu'on a mis dans la rubrique sport car elle avait osé faire un sujet sur l'actionnaire de sa chaîne info, eh bien va être chargée de suivre la campagne de ce favori des sondages. Mais elle va mener une solide enquête qui va dévoiler une partie du secret.
Qu'est-ce qu'il motive, ce connard?
Le candidat, il parle beaucoup avec son garde du corps. Là, il dit « fils de pute » en roumain.
Il dit « fils de pute » en roumain?
Ouais. Grâce au foutu très fort, en labial. Ça, en italien, ça va te faire enculer.
Pourquoi, même pas encore élu, le candidat nous cache déjà quelque chose?
Je vais pas faire ce que les gens qui financent ma campagne ont prévu. Et pourquoi? Si je le fais, ça va tout casser encore plus. L'air, l'eau, le sol, ils sont trop forts, trop puissants. Ils me lâcheront plus même quand je serai élu.
Alors c'est dire qu'on est de plein pied hein, dans la chose politique. Albert Dupontel se garde bien de faire une quelconque leçon et admet qu'il enfonce des portes ouvertes, qu'il décrit une classe politique dévoyée, des médias à la solde du pouvoir, une planète qui agonise sans que les responsables politiques n'en prennent la mesure. Alors on ne peut pas dire que le scénario soit des plus simplistes, hein, car il s'agit de découvrir le secret du candidat, chuchotement, homme de main roumain, service d'ordre israélien, tout semble confus, mais... un secret en cache un autre, plus personnel, et c'est aussi celui-ci que la journaliste très alerte Cécile de France va pouvoir tirer.
Si on vous dit « enfin il se passe quelque chose dans cette campagne soporifique », que répondez-vous?
C'était dans tes questions, ça?
Non, mais les prévues ont déjà tout été posées.
Quoi qu'on va retourner au foot, nous, hein?
Alors Dupontel l'a déclaré, son film est bourré d'effets spéciaux, il n'existerait pas sans les outils numériques, et comme chaque fois, l'acteur et réalisateur cherche à truffer sa caméra un peu partout, n'hésitant pas à l'arracher au sol, à la faire tournoyer. Mais il sait également laisser place au jeu d'acteur, il s'incarne dans le duo Cécile de France-Benoît Marié, qui lui eh bien, joue un cadreur fan de foot. Il y a vraiment de belles trouvailles dans ce second tour, de belles trouvailles de comédie, hein, à défaut d'avoir un scénario tout à fait digeste. Comme nous le verrons en fin d'émission, un Tarek Boudali fait des comédies qui ne s'appuient que sur des gags, quand Dupontel convoque l'humain, le sentiment, et cette fois-ci, eh bien, le politique. Ne passez pas à côté de cette comédie bien menée qui, même si elle enfonce des portes ouvertes, il est fait référence notamment au film Bienvenue Mr. Chance, et avec cette idée que finalement, eh bien, on peut gouverner le monde avec des idées toutes simples, sorties d'un esprit tout frais, eh bien, cette comédie a plutôt le don de faire rire, hein, et c'est précisément ce que cherche son réalisateur. Second tour, film d'Albert Dupontel, est en salle depuis le 25 octobre. Alors il fallait quelqu'un qui se dévoue pour passer plus de 3 heures devant les derniers Scorsese, et c'est toi, Manu.
3h26, exactement.
Voilà, et tu nous en parles.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Mais tâchez de faire vite.
Ah bon, on essaie de se mélanger à ses familles, mais l'argent du pétrole coule dans la bonne direction, il coule vers nous.
Chomikasi, c'est ce que vous êtes.
J'ai rien compris à tout ça, mais je parie que ça veut dire beau diable en indien.
Esh.
Après le décevant The Irishman, plus poussif que crépusculaire, Martin Scorsese revient avec une fresque relatant une histoire méconnue de l'Amérique en adaptant librement un roman de David Gran. Alors le film prend racine au début du XXe siècle, ancrant d'emblée son récit dans un entre-deux à la lisière de deux genres, sans en épouser un plus que l'autre, le western et le film d'enquête. Le pétrole a apporté la fortune au peuple Osage, des Indiens, donc hein, du jour au lendemain. La richesse de ces Amérindiens attire rapidement la convoitise des Blancs, évidemment racistes, qui par manipulation et fourberie entreprennent une vaste opération visant à dépouiller le peuple Osage, quitte à recourir régulièrement au meurtre, souvent maquillé en accident, suicide ou maladie. Voilà, ça c'est vraiment l'histoire réelle. Dans ce contexte, Ernest Burstcast, un bonnet de retour de la guerre de 14, débarque dans la petite ville de Fairfax, en Terre Osage, chez son oncle William Hall, qui lui propose de faire le taxi. Ernest rencontre Molly, une Osage, et en tombe amoureux. Hall lui propose de se marier rapidement afin de servir ses propres plans. L'idée est de s'allier avec ce peuple afin que l'argent revienne du bon côté. William Hall, le vrai antagoniste du film, est une figure donc diabolique, qui voit en Ernest le meilleur moyen d'arriver à ses fins.
Pourquoi vous êtes venu ?
Je bosse avec mon oncle.
Et il vous fait peur ?
Non, lui, c'est l'homme le plus gentil du monde.
Les Osages, leur heure est venue. Il faut que tu reprennes le contrôle de ta maison.
Imparfait et bancal, Killers of the Flower Moon n'en est pas moins le film de Scorsese le plus passionnant vu depuis des lustres, enfin pour ma part, en tout cas celui qui m'a touché le plus depuis Casino. Alors commençons par évacuer ce qui ne va pas. Alors le premier, peut-être le seul gros défaut qui saute aux yeux, tient à la contre-performance de Leonardo DiCaprio, alors qui, affublé d'une prothèse gênante, incarne le neuneu, Ernest. L'acteur fétiche de Scorsese livre un numéro de cabotinage ahurissant, jouant son personnage comme s'il était le partenaire d'une comédie régressive avec Jim Carrey. Alors, pour certains, je sais que c'est rédhibitoire quand un acteur est pas bon. Moi, ça peut passer si le film va au-dessus. Donc, il arbore tout le long du métrage une expression clownesque qui empêche le spectateur d'adhérer à une figure un peu de débile qui n'évolue pas de la première image à la dernière. Alors, ce qui pose aussi donc un problème d'adhésion. Alors, pourquoi adopter le point de vue d'un personnage aussi peu intéressant et vide, alourdissant constamment le propos ? Alors, peut-être parce que DiCaprio est coproducteur du film, tout en sachant qu'à l'origine, il devait endosser le rôle de l'enquêteur du FBI envoyé par Edgar G. Hoover avant que Scorsese ne réécrive le scénario. Alors face à DiCaprio, Robert De Niro s'en sort évidemment mieux, en faux bon samaritain qui fait mine d'être un humaniste généreux alors qu'il est un vrai crevard, le mal incarné, vraiment le mal incarné à l'état pur derrière un visage souriant. Son numéro parfaitement rodé, avec son fameux sourire inversé, procure une jubilation communicative qui rappelle le Scorsese joueur des affranchis. Alors dans sa quête de sobriété, s'effaçant derrière son grand sujet, Martin Scorsese a perdu, du moins en apparence, en inventivité dynamique sur le plan formel. Alors sa mise en scène élégante, traversée d'ailleurs de fulgurances comme les séquences d'ouverture et de fermeture, absolument splendide, frôle parfois l'académiste dans sa volonté de servir une histoire qui aurait mérité d'être un peu resserrée au montage. Alors je dis frôle car il s'agit davantage de classicisme plutôt que d'académisme, au sens, je dirais, presque fordien du terme. C'est-à-dire que Martin Scorsese n'a plus rien à prouver, il n'exhibe plus sa virtuosité légendaire, ne s'attarde pas d'ailleurs complaisamment sur les meurtres qui sont très vite expédiés.
Ça devait passer pour un suicide, pauvre abruti. Tu lui avais dit de laisser le flingue
je
sur
sais,
place.
Je lui ai dit de laisser le flingue là-bas.
Tu lui avais dit de ne pas ramener le flingue.
Et comme vous m'avez dit, je sais pas pourquoi il l'a ramené, je sais pas, j'ai dit comme vous m'avez dit.
Tu lui as dit de tirer par devant. Alors pourquoi il a tiré par derrière? C'est quand même simple. Par devant, c'est par devant. Et par derrière, c'est par derrière.
Il devait faire croire que c'était tout bonnement un suicide.
Ça ressemble à un meurtre. Et ça devrait pas y ressembler. C'est clair?
J'ai dit dans le front, King. J'ai dit en plein front, comme ça. J'ai dit comme vous m'avez dit. Je le promets, je le promets. Je le jure sur mes enfants.
Non.
Je le jure sur mes enfants, King.
D'accord, calme-toi, ressaisis-toi. Et ne jure pas sur tes enfants. Tu passes pour un crétin.
Je suis pas un crétin, j'ai tout bien fait.
Killers of the Flower Moon fascine en revanche par la limpidité avec laquelle le cinéaste nous raconte son histoire singulière et captivante, retrouvant ainsi la puissance narrative, je dirais, des grands romans américains de Steinbeck à Philip Roth. C'est-à-dire que le film procure ce plaisir assez rare de ces pavés que l'on redoute, mais qu'une fois la première page ouverte, il est impossible de décrocher. Alors entre le western épique, la fable politique et le drame criminel, le film parvient surtout à mêler l'intime avec la réalité d'un moment de l'histoire que personne ne connaissait. Enfin, moi, j'étais très surpris. Je n'avais rien lu et c'est une bonne façon de voir le film. Alors, cette intimité tient à la relation entre Ernest et sa femme, magnifiquement incarnée par Lily Gladstone, que l'on a vu d'ailleurs dans les films de Kelly Rickard, qui, malgré le surjeu de DiCaprio, parvient à être bouleversante, ces séquences. Le vaste plan de Hall n'est pas seulement de voler les Indiens, mais aussi de les pénétrer dans leur espace privé, dans leur chair, de les déposséder de tout ce qu'ils ont. Scorsese livre sans doute son film le plus radical, le plus ouvertement politique, une fable terrifiante non pas tant sur les méfaits du capitalisme, mais plus globalement sur la bêtise et le racisme d'une nation blanche qui a tout fait pour exterminer les Amérindiens. Alors le cinéaste décrit très bien la frustration et la haine de ces petits blancs horrifiés à l'idée de ne pas posséder la fortune du peuple Osage. Toute proportion gardée, ce nouveau film, Killers of the Flower Moon, rappelle parfois, alors peut-être avec un peu moins de souffle, La Porte du Paradis de Michael Cimino, autre grand film malade et qui a su traverser le temps et qui revenait aussi sur une histoire que l'Amérique aurait préféré oublier.
Eh bien, il manquerait plus que ça que Leonardo DiCaprio ait l'Oscar du meilleur acteur. Killers of the Flower Moon, vous en aurez pour votre argent. Ce film est en salle depuis le 18 octobre. Le patron du pub Old Oak va se lier avec une réfugiée syrienne pour donner de la cohésion au village, comme à la bonne époque des mineurs. Nous parlons du dernier Ken Loach.
This is Cinerama.
Et ça, c'est clair.
Le dernier film de Ken Loach, 87 ans, était en compétition à Cannes où il a été applaudi mais n'a rien accueilli. Alors le titre se rapporte au nom d'un pub qui est le dernier d'une ancienne ville minière du nord-est de l'Angleterre où la crise a fait des dégâts. Et quand un bus rempli de Syriens débarque, eh bien, tous les habitants ne les accueillent pas les bras ouverts. Deux mondes s'opposent alors, la vieille garde des mineurs qui ont tout perdu et des migrants qui ont fui les combats pour tenter une nouvelle vie au Royaume-Uni. Le point d'ancrage du film, ce sont d'un côté le patron du pub qui choisit l'avenir au passé et une jeune Syrienne qui veut coûte que le patron organise des repas communs dans l'arrière-salle du bar, comme c'était le cas au bon vieux temps des mineurs. L'amitié qui va animer ces deux personnages sera bien plus forte que toutes les oppositions qu'on sent au sein de cette ville. L'histoire est évidemment captivante, Ken Loach nous ancre dans le réel avec toujours des personnages qui ont l'air de sortir de leur milieu, à tel point que ce sont de vrais habitants de cette région qui ont joué leur rôle et de vrais Syriens qui là encore ont joué leur propre rôle. Alors ce que décrit aussi le réalisateur, c'était là d'ailleurs son point de départ, c'est celui d'une région de l'Angleterre qui a été complètement abandonnée par les politiques. On est dans un Ken Loach qui ravira les fans du réalisateur britannique. On écoute le réalisateur qui était au dernier festival de Cannes en compétition et il a parlé brièvement de ce que pouvait le cinéma.
When you eat together, you stick together.
My mother always said that.
Some of the locals are struggling too.
Everywhere's closed. We can't even look after our own.
J'avais fait dans le temps un film sur les sans-abri et il y a eu un tout petit amendement d'une réglementation pour améliorer le soutien aux sans-abri. Mais tout cela ne remettait pas du tout en cause le système. Ce que l'on souhaite maintenant, c'est un changement fondamental dans la puissance économique. Et je ne pense pas qu'un film pourrait y parvenir. Un film peut nous toucher. Et merci pour votre aimable intervention. Vous vous souviendrez probablement d'un film d'Hollywood qui soutenait la CIA, qui représentait les États-Unis comme étant les défenseurs de la liberté et de la démocratie. Mais nous savons que les films d'Hollywood font passer un message. Un message tout à fait intéressant, du genre la convoitise est une bonne chose, la richesse est une bonne chose, la démocratie, il faut la soutenir. Et nous savons que les États-Unis soutiennent toujours les dictateurs dans des pays différents. Et Hollywood soutient tout cela. Le cinéma, c'est comme une voix dans un cœur. Et si nous, nous pouvions être une voix dans le cœur de l'opposition, ce serait vraiment déjà quelque chose. Mais c'est le plus que nous puissions espérer.
C'était Ken Loach qui était présent au Festival de Cannes. Nous parlions de The Old Oak, son film qui est en salle depuis le 25 octobre. Dans un futur proche, grâce à l'intelligence artificielle, on peut porter un enfant dans un pod. C'est The Pod Generation.
Avec vous, c'est du travail soigné.
Cinérama.
Et ça, c'est clair.
Rachel et Alvi sont un couple de New-Yorkais qui décident d'avoir un enfant. Or, nous sommes dans un futur proche, une époque où il est possible, moyennant de l'argent et une place sur liste d'attente, d'avoir accès au pod, c'est-à-dire une grossesse ex-utéro, une grossesse qui se déroulera dans un œuf, dans un pod, donc, plutôt que dans votre ventre. Ce qui, d'après la firme à la pointe de la technologie qui a développé ce procédé, est un moyen de vivre sa grossesse plus paritaire et moins contraignant. Alvi, qui est botaniste et voit d'un mauvais œil l'évolution de cette société où l'on s'éloigne de plus en plus de la nature, a des doutes. Mais Rachel, femme d'affaires dont la carrière décolle, l'incite à accepter cette expérience, influencée tout de même par ses supérieurs hiérarchiques qui sont, eux, très contents que leurs salariés attendent des enfants tout en continuant à travailler.
The uterus is a political issue.
Oh, here we go.
Dans Pod Generation, il est question de l'ectogénèse, ce processus de procréation qui permet le développement de l'embryon et du fœtus dans un utérus artificiel. Pod Generation, c'est le troisième film de Sophie Barthe, réalisatrice française de 49 ans, formée à New York, qui fait ses films aux États-Unis. Elle a déjà réalisé Amonstock de Paul Giamatti et Madame Bovary avec Mia Wasikowska. Et la cinéaste, eh bien, de par sa vie aux États-Unis, a un avis plutôt tranché sur ce qu'elle estime être la marchandisation du corps féminin poussée à l'extrême. Selon elle, ce que l'on voit dans le film sera monnaie courante d'ici 4-5 ans, facilitée par de nouvelles technologies et par la culture de la surconsommation. La réalisatrice déplore que l'outil soit en train de devenir plus important que l'humain. Or, plus on donne à la machine, plus on est paresseux, plus elle prend parce qu'elle est programmée pour cela et plus on perd de notre humanité. Toujours selon Sophie Barthe, je cite, « Sous couvert d'un message féministe, on dit aux femmes qu'il est préférable pour leur carrière et pour leur compétitivité qu'elles se comportent comme des hommes et insidieusement, on les encourage à repousser à plus tard le projet d'avoir des enfants. C'est le pire discours que l'on puisse mettre dans la tête d'une femme. » Personnellement, je ne partage pas tout à fait ce point de vue, car même si le phénomène des mères porteuses aux États-Unis concerne majoritairement en effet des femmes aisées qui font appel à des femmes moins riches qu'elles pour porter leurs enfants, il ne faut pas oublier que cela permet également à de nombreux couples gays d'avoir accès à la parentalité, ce qui est positif. Mais revenons au film qui se veut comme une allégorie de notre relation à la technologie. On pense bien évidemment d'emblée à la série Black Mirror, cette série anglaise cauchemardesque et selon les épisodes fort bien scénarisés, qui imagine à chaque fois à quel point une avancée technologique censée nous faciliter la vie pourrait devenir un cauchemar. Heureusement, la morale n'est pas tant présente dans Pod Generation et on ne basculera jamais dans l'horreur. Le film reste tout public malgré une montée du suspense non négligeable.
The algorithm. It noticed a change in productivity.
What are you talking about? It can't see us.
We do have a baby in gestation, right? All good on that front?
Ce que l'on peut reprocher peut-être au film, c'est sa distribution, qui à coup sûr jouera en sa faveur face au public, mais qui donne un côté plateforme au sens netflixien du terme à Pod Generation, dont le rôle principal, Emilia Clarke, que l'on a connue dans la série Game of Thrones, avec l'iconique rôle de Daenerys, la mère des dragons. Que Emilia Clarke soit en quelques années à peine devenue une star ne fait aucun doute, mais Est-elle une bonne comédienne capable de faire oublier le rôle emblématique qu'elle a tenu sur cette saison? Car depuis la fin de Game of Thrones, eh bien, on l'a surtout vue dans des comédies romantiques hein, telles que Last Christmas ou alors Avant toi. Et si l'actrice a un capital sympathie indéniable et un charme fou, force est de constater que son jeu manque un peu de variation, un peu d'évolution. Et si elle peut se targuer d'avoir les sourcils les plus expressifs du 7e art, Emilia Clarke peine un peu à jouer avec subtilité. Peut-être est-ce dû aux longues années qu'elle a passées sur les planches. À ses côtés, la présence de Chiwetel Ejiofor permet quand même de créer un couple de fiction convaincant. Ejiofor que l'on a découvert dans 12 Years a Slave de l'excellent Steve McQueen. Pod Generation permet d'aborder des questionnements tout à fait dans l'air du temps. Il nous y fait réfléchir sans être alarmiste et se positionne, lui, en revanche, clairement. Hein. Il nous faut trouver un équilibre, selon le film, entre nature, humanité et technologie. Car comme le dit Montaigne, science sans conscience n'est que ruine de l'âme.
The Pod Generation est en salle depuis le 25 octobre. La franchise de Sylvester Stallone, qui pouvait être amusante à ses débuts, est bien décevante. C'est Guillaume qui nous le confirme. Nous parlons d'Expendable.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Des terroristes ont volé des missiles nucléaires qui étaient à bord d'un cargo. Si ces bébés sont lancés, c'est la Troisième Guerre mondiale.
On a été servi cette année, question de suite directe hein, ou tardive, hein, mais surtout, le résultat a à peu près toujours été le même. Alors, les films étaient, hein, de manière très prévisible, soit décevants, soit extrêmement mauvais, et la plupart se sont d'ailleurs plantés au box-office. Alors, vous allez me dire, mais enfin, pourquoi donc s'intéresser à un film Expendable en 2023, surtout que le dernier en date, ben, le 3, a déjà 9 ans et accusé une baisse de rythme due au fait de vouloir rendre la saga plus grand public et moins violente. Alors, c'est un comble quand on sait que c'est ben, de l'action bourrine que veut voir le public. Eh bien, parce qu'il est, mine de rien, toujours intéressant de se demander ce que Sylvester Stallone a à dire dans un film.
Qu'est-ce que tu fais là ?
J'ai un gros problème et il faut que tu m'aides.
Faut que je change d'amis.
Et oui, pour ceux qui suivent sa carrière depuis le début, et loin de la simpliste hein, image de gros bras qui l'accompagne dans l'imaginaire restreint d'une bonne partie du public, Stallone est un véritable homme de cinéma qui sait écrire et réaliser, et surtout qui sait se mettre en scène dans l'écriture de ses films. Alors attention, hein, cela ne veut pas forcément dire que tous les projets auxquels il a participé ou que tous les films qu'il a tournés sont forcément mémorables, mais lorsqu'il y met son âme d'artiste et d'auteur, oui, j'insiste sur le terme d'auteur. Cela donne bah, des moments forts, au pire divertissants, au mieux oscarisables, comme Rocky par exemple. Expendables est de la première catégorie. En 2010, a débarqué ce gros film d'action voulant réunir les plus grandes stars du cinéma d'action des années 80 au sein d'un même long métrage et ce fut le succès. Et réalisé et entièrement chaperonné par Stallone, hein, le résultat était fun hein, et achevé le retour en grâce bah, de son auteur au sommet du box-office après les belles réussites commerciales et surtout artistiques de Rocky Balboa en 2006 et John Rambo en 2007. C'était même une belle revanche car ben, pendant plus de 10 ans, hein, il était question d'un acteur qui n'était plus que l'ombre de lui-même, incapable de motiver un public qu'il avait abandonné et condamné à être une relique du passé. Et c'est justement en ressuscitant et en mettant en scène une relique du passé, mais aussi d'un mode d'action et de fonctionnement passé, hein, qu'il a su en remontrer hein, aux petits jeunes et revenir en haut du podium. Le premier Expendables est aussi un beau doigt d'honneur à ses détracteurs hein, qui l'enfermaient dans ses vieux rôles car il se crée là un nouveau personnage iconique, Barney Ross, et qui allait donner naissance à une nouvelle saga. Alors quoi qu'on en pense, eh bien c'est pas donné à tout le monde et ça se respecte. Mais une fois qu'on arrive au quatrième volet d'une saga, chaperonné par quelqu'un qui a quand même 70 ans passé, est-ce que le film, lui, nous respecte ? Eh bien, c'est là où le bât blesse.
C'est en train de devenir une affaire d'humiliation et de bonté humaine. Mon ami qui est ici adore sa bague pour je ne sais quelle raison à la con. Alors il serait fort aimable et civilisé qu'en tant que gentleman, vous preniez ça en considération. Mais si vous deviez rester... Barney, c'est quoi le mot ?
Obstiné.
Trop compliqué.
Abruti.
Abruti. Vous me laisseriez pas le choix. Gringalet.
Stallone ayant passé à la main de la réalisation à d'autres pour toutes les suites, les rênes d'Expendables 4 sont confiées à Scott Vaughn, ancien cascadeur passé à la réalisation. Alors à l'image des précédents épisodes, la mise en scène ne fait pas d'étincelle et cherche l'efficacité bourrine plus que la stylisation, ce qui est toujours dommage quand on a un casting composé de stars et qui joue justement sur cette affiche alléchante. Mais là aussi, il y a un gros problème car on sent que cet opus 4 a fait raisonnablement fuir pas mal de gloire anciennement présente. Le film tourne donc majoritairement vers des têtes plus jeunes, jeune et ne sait pas trop quoi en faire, tant le charisme et leur manque de charisme plombent leur piètre prestation. Alors le pompon est surtout remporté par 50 Cent, hein, qui remplace l'excellent Terry Crews et qui est sûrement là parce qu'il avait partagé les déjà très mauvais films Évasion avec Stallone et qui est encore pire acteur que rappeur. C'est dire. Stallone nous fait même l'offense d'être absent les trois quarts du métrage et laisse le pauvre Jason Statham se démerder pour nous divertir. Alors comme tous les cascadeurs devenus réalisateurs, John Wick, Scott Vaughn n'arrive jamais à élever son histoire de base très simple et transforme justement cette série de films qui étaient un petit peu originaux en produits d'action bas de gamme comme on les avait justement longtemps enchaînés Jason Statham pour le plus grand bonheur de son banquier. Alors oui, le Covid a malmené la création du film, oui, l'âge de son casting de vétérans et l'absence de beaucoup d'entre eux ne pouvait pas laisser présager d'une grande flamboyance, oui, la grève des acteurs toujours en cours a fait beaucoup de mal à la promo du film, mais quand même, on en attendait mieux pour un budget de 100 millions de dollars. Quand on voit le résultat, ces effets numériques de notre âge et le cynisme bof de l'ensemble, et il est peut-être temps de jeter mémé aux orties. Alors Stallone, d'ailleurs, a peut-être été le premier à le comprendre, lui qui s'est déjà tourné vers la télévision depuis un petit moment.
Expendable est en salle depuis déjà le 11 octobre. Tarek Boudali revient avec son personnage de flic qui veut devenir agent secret. C'est 3 jours max et nous en parlons.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
On disait la bande à Fifi pour Philippe Lachaud quand celui-ci était aux commandes du film, comme ce fut le cas de Babysitter 1 et 2, Alibi.com 1 et 2. Alors on pourrait encore dire la bande à Fifi pour les films réalisés par son pote Tarek Boudali qui est de tous les projets. Et comme pour Lachaud, il a une habitude de multiplier ce qui a déjà cartonné après 30 jours max, sorti il y a 3 ans. Nous avons droit à 3 jours max. Il prend donc la même équipe ou presque. Il y a Philippe Lachaud, Vanessa Guild, Julien Arruti. Dans 30 jours max, il incarnait un flic sans envergure qui, malgré lui, arrivait à se sortir de missions périlleuses car il n'avait plus peur de mourir, pensant être condamné à mort par une maladie. Dans 3 jours max, on le voit se préparer à devenir agent secret. Mais durant sa formation, il reçoit un appel du Mexique, on retient sa mère, et pour la revoir vivante, il n'a que 3 jours. Pour ce film, Tarek Boudali va franchement dans le pastiche du film d'action, la preuve avec cette réplique.
Ce que j'ai, ce sont des compétences particulières qui font de moi un véritable cauchemar pour vous. Si vous touchez aux gens que j'aime, je vous chercherai, je vous trouverai et je vous tuerai.
Qui ressemble à celle-ci prise dans Taken, évidemment.
Si vous relâchez ma fille maintenant, j'oublie tout, ça s'arrête là. Je vous laisserai tranquille. Je ne vous poursuivrai pas. Mais si vous la gardez, je vous chercherai. Je vous trouverai. Et je vous tuerai.
Mais Tarek Boudali y ajoute cette chute.
No hablo francés.
Pas sa mère, patron.
Ça change tout. C'est une comédie. Les gens ne meurent pas vraiment et s'ils veulent tuer, ils laissent beaucoup de chance à leurs victimes de s'en sortir. Pour Tarek Boudali, le modèle, c'est davantage Tom Cruise et Mission Impossible que la saga Taken. Il a aussi en tête Jean-Paul Belmondo. L'idée, c'est de partager son film entre gags, action et aventure. Si Tarek Boudali, on le comprend, a du mal à rivaliser avec Tom Cruise, il y a quelques bonnes idées, comme le personnage de Philippe Lachaud, qui lui est un sosie parfait d'un DJ populaire et qui se prend au jeu.
David Guetta. Voilà, la mixtape. Allez, on met tous les mollets.
Comme chaque fois, les gags sont essentiellement visuels avec des séquences souvent bien amenées. L'un des gags les plus inattendus dure de longues minutes et n'en est que plus savoureux. Et certains gags ne reposent que sur l'immédiateté. Quelqu'un se prend une porte, une pelle, une baffe. Bref, il est secoué. Mais comme à chaque fois, même si certains gags fonctionnent, la mise en scène manque d'éclat et de singularité. Tarek Boudali recherche la belle image avant tout. Il ne faut pas chercher autre chose que le divertissement. C'est là encore une fois la limite des productions menées par Lachaud et Boudali quand d'autres réalisateurs de comédie parviennent à dégager des questionnements, à s'intéresser davantage en profondeur à leur personnage. Le réalisateur avec qui j'ai pu discuter m'a dit être fan de Francis Weber et comparer le personnage qu'il incarne à Pierre Richard. Alors on est pourtant assez loin. Dans ce film, Tarek Boudali s'est servi dans les grosses productions mondiales. Pour les pasticher, il y a du Fast and Furious, du Rambo, Baby Driver, il y a du Belmondo, du Indiana Jones. Les clins d'œil sont un peu surlignés, mais le réalisateur trouve toujours un bon moyen de détourner les films originels. Voilà, pour les fans de la bande Philippe Lachaud, Tarek Boudali. Ce 3 jours max peut être intéressant. Il est en salle depuis le 25 octobre.
Alors,
c'est fini l'heure des visites. On va fermer. Du large.
Quoi?
Vous avez délivré le message. Adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui.
J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai?
Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
On se retrouve la semaine prochaine avec une interview très intéressante avec la réalisatrice du film Le syndrome des amours passés. Nous parlerons aussi de Complètement cramé, du théorème de Marguerite, de L'enlèvement, film de Bellocchio, et puis de À l'intérieur. À la semaine prochaine.